Radio Prague, les informations.
Bonjour les amis et bienvenue à l'écoute du bulletin d'information de Radio Prague. Les principaux titres ce jeudi. À Prague, le centre social Klinika rouvre ses portes au public. L'âge limite pour la castration volontaire bientôt abaissé. Et puis du tennis, Berdych bat Pouille en quart de finale de Wimbledon. Après plusieurs semaines de fermeture, le centre social autogéré Klinika, situé dans le quartier de Žižkov, dans la capitale tchèque, rouvre ses portes au public ce jeudi. Le tribunal municipal de Prague a en effet décidé de revenir sur une disposition précédente qui interdisait l'utilisation de ce bâtiment occupé depuis la fin de l'année 2014. Le centre, qui propose différentes activités artistiques et culturelles, ainsi que des actions de solidarité, notamment à l'égard des réfugiés, n'a pas la vie facile depuis que le Bureau pour la gestion des propriétés de l'État a décidé de ne pas prolonger le contrat de location du lieu en mars dernier. Le gouvernement tchèque a décidé de soutenir un amendement pour abaisser l'âge à partir duquel il est possible d'être castré. Actuellement, la castration volontaire est possible à partir de 25 ans. À l'avenir, cet âge devrait donc être abaissé à 21 ans. Cette nouvelle disposition était pourtant contestée par la médiatrice de la République, Anna Chabatova. À partir de 21 ans, un individu consentant qui est atteint d'une quelconque déviation, qui peut s'exprimer par un comportement agressif, pourra à sa demande faire l'objet d'une intervention médicale qui limitera significativement sa tendance à faire du mal à son entourage, a expliqué le ministre de la Santé Svatopluk Niemetschek. Le gouvernement a décidé d'augmenter les avantages fiscaux dont jouissent les familles avec deux enfants ou plus. L'exonération fiscale en vigueur pour les couples avec deux enfants sera ainsi augmentée d'un peu moins de 100 euros à partir de 2017. À partir du troisième enfant et pour tous les suivants, cet avantage sera porté à environ 130 euros. L'excédent commercial de la République tchèque s'est établi à environ 670 millions d'euros au mois de mai. Il s'agit presque du double de l'excédent enregistré l'an dernier à la même époque. Selon l'Office tchèque des statistiques qui diffuse ses données ce jeudi, la balance commerciale de la Tchéquie n'a jamais été aussi excédentaire pour un mois de mai. Les exportations tchèques ont notamment été portées, comme à l'usage, par les secteurs de la machinerie et des transports. On passe au sport et tout d'abord au basketball. L'équipe tchèque a pris le dessus mercredi soir sur le Japon 87-71 à Belgrade où est organisé le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Une victoire qui permet aux Tchèques, défaits par les Lettons lors de leur premier match, d'accrocher la seconde place du groupe B et donc de participer aux demi-finales. Les Tchèques, menés par Jan Veseli, affronteront vendredi la sélection serbe, favorite de son tournoi, pour une place en finale. Seule l'équipe victorieuse de cette compétition validera son ticket pour le tournoi olympique organisé à Rio de Janeiro au mois d'août prochain. Une page de tennis maintenant. Tomáš Berdych participera à la deuxième demi-finale de sa carrière au tournoi de Wimbledon. Sur le gazon londonien, le Tchèque a confirmé son statut de favori en battant en 3-7 le français Luka Pouille, invité surprise des quarts de finale 7-6-6-3-6-2. Le meilleur tennisman tchèque, 9e joueur mondial, n'aura pas la tâche facile vendredi puisqu'il sera opposé à l'écossais Andy Murray, victorieux à Wimbledon en 2013, qui a lui-même écarté un français en quart de finale en la personne de Joe Wilfried Tsonga. On termine avec la météo. Ce vendredi, jour de la fête des Nora, le temps est plutôt ensoleillé, même si le ciel se couvre sur le nord de la Bohême. Les températures sont plus élevées dans la partie méridionale du pays et vont de 23 à 27 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentait Pierre Ménian. Restez à notre écoute car notre programme continue en compagnie de Denisa Tomanova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Deux sujets d'actualité figurent au sommaire de ce jeudi. Nous allons tout d'abord vous parler d'un nouveau désaccord au sein de la coalition gouvernementale et qui a trait à l'avenir de la gestion du système des péages des autoroutes. Par la suite, nous allons vous présenter un entretien réalisé avec la cinéaste Alice Diop à propos de son documentaire La Permanence, le seul film français en compétition au Festival international du film de Calvivare, dont la 51e édition bat son plein. Ce sera au micro de Pierre Maignan. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons retrouver la rubrique touristique en compagnie d'Alžbeta Rouškova, qui vous présentera cette fois-ci le lieu Valštinská loďia, une ancienne résidence transformée en lieu culturel. C'est Denisa Tomanova qui aura le plaisir de vous accompagner tout au long de ce programme. Très bonne écoute à vous tous, chers auditeurs sur Radio Prague. La coalition gouvernementale a trouvé un nouveau point de désaccord, et ce à propos de l'avenir du système de péage électronique des autoroutes. Si le contrat de la multinationale autrichienne Kapsch, gestionnaire de ce système depuis 10 ans, doit expirer à la fin de l'année, le ministre des Transports, Dan Tjok, du parti Anno, souhaite prolonger cet accord de 3 ans sans pour autant organiser un appel d'offres. Voilà qui déplaît à ses partenaires sociodémocrates et chrétiens-démocrates. Les Tchèques paient habituellement les autoroutes par l'achat de vignettes annuelles, mais il existe un système de péage électronique mis en place depuis 2007 qui concerne avant tout les véhicules de plus de 3,5 tonnes. L'année dernière, l'État a perçu grâce à ce système électronique un peu moins de 10 milliards de couronnes, soit près de 370 millions d'euros, et au total près de 68 milliards de couronnes, soit 2,5 milliards d'euros depuis son instauration. Or, le contrat de la société Kapsch, qui gère ses péages, pour lesquels elle a gagné à près de 18 milliards de couronnes, 665 millions d'euros, arrive à son terme à la fin de l'année. Le ministère des Transports a l'intention de renouveler le contrat d'une valeur de 6 milliards de couronnes avec la société Kapsch pour les 3 ans à venir et ne compte organiser un appel d'offres qu'après l'expiration de ce nouveau contrat. Le ministre des Transports, Dan Tjok, assure néanmoins que ce nouveau contrat devrait permettre à l'État de réaliser d'importantes économies sans fournir pour autant davantage de détails. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème à ses partenaires de coalition. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur, le social-démocrate Milan Chovanec, a indiqué.
À partir du 1er janvier de l'année prochaine, il risque de ne pas y avoir de perception des péages. On veut des réponses à des questions concrètes. On veut notamment savoir si le ministère des Transports dispose d'un plan alternatif, que ce soit sous forme de coupons en papier ou via l'approbation en urgence d'une loi spéciale à cet effet. On veut tout d'abord savoir s'il y a vraiment une volonté de la part de la société Kapsch. C'est pourquoi nous aimerions voir les comptes rendus des réunions, des mémorandums, ou tout simplement avoir l'assurance du ministre Dan Tjok qu'il a bien été en négociation avec la société Kapsch.
Or, selon Dan Tjok, le ministère des Transports a obtenu un avis positif du ministère de l'Intérieur pour agir de la sorte. Toujours selon le ministre, cela fait depuis de nombreuses années que les précédents ministères ne sont pas parvenus à organiser un nouvel appel d'offres sur la gestion du système de péage électronique et qu'il lui incombe de sauver cette situation délicate à la dernière minute. Dan Tjok explique.
Ten důvod je hrozně jednoduchý. Prostě někdo v roce 2006-2007 nasmlouval smlouvu.
La raison en est simple. En 2006 et 2007, quelqu'un a élaboré le contrat de telle façon que nous ne sommes pas capables d'organiser un appel d'offres. Je l'ai dit à maintes reprises, nous disposons notamment d'expertise à ce sujet, mais personne ne semble vouloir accepter ce simple fait. Moi-même, je ne me réjouis pas de cette situation, mais ce scénario a été écrit longuement à l'avance et il est pour moi essentiel que le péage continue à être versé.
À la question de savoir pourquoi le contrat de la société Kapsch ne devrait-il pas être provisoirement renouvelé pour une période plus courte que celle de 3 ans, Dan Tjok répond.
Buďme realisté, prostě ten čas je potřeba.
Soyons réalistes, on a besoin de temps. Dire à l'heure actuelle de quelle façon géniale et rapide on va gérer la situation, je n'y crois pas un instant. L'État met tout simplement beaucoup de temps dans l'attribution de grandes commandes. Il a ses normes et ses délais juridiques et il est impossible de les accélérer.
Pour les chrétiens démocrates, les solutions du ministère des Transports sont difficilement acceptables et relèvent d'un processus de droit compliqué. Cette situation fait naître des préoccupations, notamment dans le camp de l'opposition, comme l'explique le président du club parlementaire du Parti civique démocrate et ancien ministre des Transports, Zbigniew Stanjura.
neexistuje bezpečný legislativní prostor, aby ta smlouva prodloužila.
Il n'y a pas de cadre législatif sûr dans lequel le contrat puisse être prolongé. La seule possibilité est une solution législative, c'est-à-dire une entente parlementaire plus ample.
Nějaká široká dohoda v parlamentu.
Selon le directeur de la branche tchèque de la société Kapsch, Karel Fakes, qui a rencontré lundi le ministre des Transports, une signature rapide de la prolongation du contrat donnerait lieu à une négociation dans de meilleures conditions. Karel Fakes se dit désolé du fait, je cite, qu'une question tout simplement technique est de nouveau devenue une question politique. La Permanence est le seul film français en compétition au Festival international du film de Carlo Vivarè, dont la 51e édition se déroule toute cette semaine. Dans ce long métrage présenté dans la section des documentaires, la réalisatrice Alice Diop filme le travail de professionnels de la santé dans un hôpital de banlieue parisienne pour prodiguer des soins à des personnes en grande difficulté. La cinéaste a répondu aux questions de Pierre Mignan.
C'est un médecin généraliste et une psychiatre qui font une permanence pour des gens qui n'ont pas de couverture maladie. Donc ça s'appelle une permanence d'accès aux soins de santé. Et ça, c'est donc des endroits qui existent dans tous les hôpitaux en France. Et là, celle où je filme, c'est en banlieue parisienne, c'est à Bobigny, à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et de fait, par usage, ce sont des lieux qui sont essentiellement fréquentés par des migrants, parce que c'est les migrants qui ont le plus des difficultés dans l'accès aux soins.
Comment avez-vous eu envie, en fait, de placer une caméra dans cette permanence?
Parce que j'étais vraiment touchée par ce que j'ai observé. En fait, je travaillais sur un autre, enfin sur, j'avais une idée de film sur la question de l'égalité de l'accès aux soins. Je voulais mesurer si la question de la santé universelle était une réalité et comment elle pouvait s'entendre, quelle était la réalité en fait concrète de ce sacro-saint principe en France qui consiste à donner accès aux soins à tout le monde. Quand je suis tombée par hasard sur cette permanence, et en fait j'ai été bouleversée par l'humanité incroyable des médecins et en même temps par la douleur et la solitude des patients qui défilaient chaque jour devant eux. Et je me suis dit que cet endroit-là, ce huis clos-là, pouvait raconter quelque chose du monde dans lequel on vit et quelque chose de l'exil, de la migration. C'est ça qui m'a intéressée.
Mmh. Comment cette caméra elle a été acceptée et la présence de votre équipe aussi a été acceptée par les patients et par les médecins?
Ben, ça a été un long travail. Vous savez, c'est effectivement, ce sont des lieux où ce qui se raconte et ce qui se vit est très intense et très intime. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est pas du tout des lieux où une caméra peut s'introduire comme ça de façon trop violente, au risque de casser l'intimité de ce qui se joue et de ce qui se passe. Et du coup, effectivement, ça a été un long travail. C'est moi qui filme. Donc, j'ai un chef opérateur, mais j'ai mis un an, en fait, à commencer à tourner. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai passé un an, en fait, sans caméra, à assister aux consultations pour trouver ma place, pour trouver mon point de vue, pour trouver l'enjeu, pour essayer de comprendre moi-même ce qui m'avait tant bouleversé la première fois que je suis venue observer en repérage ce lieu. Donc les gens se sont habitués à ma présence et je crois que d'une certaine manière ma présence a fait partie aussi des soins, parce que c'est des gens qui sont maintenus dans une forme d'invisibilité et tout d'un coup le fait d'être reconnu et regardé par le médecin, mais être reconnu et regardé par une caméra et du coup par des spectateurs et donc par un public plus large, je pense que pour eux c'était quelque chose de presque thérapeutique.
Est-ce que elles sont suffisantes, ces permanences, pour faire face à la demande en soins de toute cette population en difficulté?
Donc chaque hôpital a la nécessité d'avoir une permanence d'accès aux soins. Mais aucune ne fonctionne, quasiment aucune ne fonctionne comme elle fonctionne à Avicenne, tout simplement parce qu'à Avicenne, elle est animée par la personnalité du médecin et par la personnalité de la psychiatre. C'est le seul endroit où les gens sans rendez-vous peuvent venir et être soignés avec ces médecins-là qui ont, une conscience aiguë de leur mission, de leur mission en fait. C'est une obligation légale, mais presque aucune ne fonctionne comme celle animée par le docteur Guérard. Donc non, je pense vraiment pas que ce soit suffisant, bien au contraire, et y compris à Avicenne, cette permanence est en permanence menacée de fermeture, parce que en raison de restrictions budgétaires, l'administration de l'hôpital en gros met des bâtons dans les roues aux médecins et pour en réduisant à la fois le créneau horaire de la permanence et en ne donnant pas accès à tout le monde la possibilité d'obtenir des médicaments gratuits. Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que non seulement les gens peuvent venir consulter un médecin et un psychiatre, mais en plus, ils peuvent bénéficier de médicaments gratuits fournis par la pharmacie de l'hôpital. Mais pour ça, ils doivent passer, entre guillemets, par l'assistante sociale qui, elle seule, a le pouvoir de dire si elle accorde ou pas ce fameux bon pass qui permet aux gens d'accéder. Donc en fait, on voit qu'il y a une vraie volonté, il y a des vraies restrictions, c'est-à-dire que cette assistance sociale n'accorde pas le bon à tout le monde. Et c'est une vraie lutte avec les médecins pour que les gens, le plus de gens puissent être soignés. C'est difficile et le film le raconte aussi.
Je voudrais simplement terminer là-dessus. Vous êtes arrivé dimanche à Carlo-Ivari. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'impression que vous fait ce festival? Vous avez peut-être eu l'occasion déjà de voir quelques films ou de profiter du festival?
Oui, bah moi je suis assez impressionnée par l'appétit de cinéma que je sens tout autour de moi. Les salles sont bondées, le programme n'a rien à envier aux plus grands festivals internationaux. Donc vraiment, je suis très impressionnée par la qualité de la programmation et par le nombre de gens qui courent pour remplir les salles, et par la qualité aussi des débats. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de cinéphiles. Et je suis arrivée hier. Enfin, hier c'était ma. Oui, je suis arrivée hier. Aujourd'hui, c'est la première journée. Je suis assez impressionnée par la stature de ce festival.
Eh bien, Alice Diop, merci d'avoir répondu à mes questions et je vais vous souhaiter un bon festival.
Merci beaucoup.
Passons à la deuxième partie de notre émission. Nous partons aujourd'hui en Bohême du Nord et plus précisément dans les alentours de la ville de Jičín. Séparée du centre-ville par une allée de 1200 tilleuls, la résidence baroque de Valštinská loggie représente l'un des endroits les plus fascinants de cette région. Alžbeta Rušková s'est entretenue avec l'intendant de cette demeure, Jiří Vedra.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Valštinská loggie je takový zvláštní evropský unikát, je to stavba, kterou vlastně založil.
Valštinská loggie est un endroit unique en son genre en Europe. Ce bâtiment a été fondé par Albrecht de Valštenštejn, une personnalité controversée de l'histoire tchèque. En 1620, lors de la bataille de la Montagne Blanche, Albrecht de Valštenštejn était un commandant en chef de l'empereur, c'est-à-dire qu'il luttait contre les États tchèques et moraves. Grâce à ses succès militaires, ses mariages avantageux et sa sympathie pour l'empereur, il a obtenu une grande fortune.
Fondateur du palais Valštenštejn, l'actuel siège du Sénat situé dans le quartier de Malá Strana à Prague, Albrecht Václav Eusebius de Valštenštejn possédait entre autres de vastes domaines dans le nord de la Bohême. C'est dans cette région, dans les alentours de la ville de Jičín, qu'il a commencé à façonner sa résidence idéale. Conformément à ses grands projets urbanistiques typiques du style baroque, cette localité devait être composée de plusieurs bâtiments, principalement des châteaux, des monastères et des églises, formant ensemble une ligne droite longue de 7 km et reliant Jičín au monastère chartreux de Valdice, érigé en 1627 par l'architecte italienne Andrea Spenza, est conçue comme le mausolée du seigneur de la région. À peu près à la même date est né un petit palais appelé Valštinská loggie. Jiří Vedra.
Dans ce paysage, Albrecht de Valštenštejn a commencé à construire une résidence d'été atypique et unique. Il s'agit d'une terrasse géante et couverte d'un toit qui donne sur un jardin ouvert. Malheureusement, ce jardin, qui devait être inspiré par le jardin de Versailles, avec des jets d'eau et des fontaines, ne nous est pas parvenu dans son état originel. Par ailleurs, une allée de tilleuls mène du centre de Jičín au château de Valštinská loggie, réfugiés, il y a encore une curiosité. Le lever et le coucher du soleil suivent des lignes géométriques. Pendant le solstice d'hiver, le soleil se lève perpendiculairement à Valsztenska Lodzie et se couche dans la direction de Jičín, et en été, c'est l'inverse. Il s'agit donc d'un phénomène astrologique et architectonique qui est assez spécifique.
Assassiné en 1634, Albrecht de Wallenstein n'a jamais achevé la réalisation ni de son concept, ni de cette résidence et de son jardin appelé les Bossats. Ses biens lui ont été confisqués et son projet, très coûteux, a été abandonné. Valsztenska Lodzie est tombée en friche et n'a plus jamais retrouvé son usage prévu. Des dizaines d'années plus tard, le bâtiment, alors dans un état délabré, a servi de grenier, puis a été utilisé comme squat dans les années 1930. La situation change il y a quelques années de cela, quand la ville de Jičín commence à investir dans les travaux de reconstruction qui veulent donner à cet endroit son visage d'autrefois. La procédure de sélection est remportée par le graphiste Jiří Vidra, devenu alors l'intendant du monument, et son projet de création d'un centre culturel peu conventionnel, connu sous le nom de l'Imaginarium culturel.
L'idée principale de cet imaginarium culturel est de démolir deux mythes. D'abord, j'essaie de lutter contre le fait que cet endroit n'est pas très prisé par les touristes, mais je veux aussi montrer qu'un monument ne doit pas forcément servir seulement à une présentation des faits historiques, et que bien que situé à 2 kilomètres du centre-ville de Jičín, il peut fonctionner comme un centre pour l'art vivant.
Riche de ses expériences précédentes dans la région de Liberec, où il vivait auparavant, Jiří Vidra a vite fait de cette ancienne résidence un endroit très recherché par les amateurs de la culture alternative.
Nous travaillons avec ce thème du rêve inachevé. Nous essayons de le faire revivre à travers différents événements culturels qui considèrent cette imperfection ou cet inaccomplissement comme un plus et le développent davantage. Il y a un vrai genius Lodzi.
Dans le cadre d'une programmation très variée, proposée tout au long de l'année, figurent notamment des festivals, des représentations théâtrales et des concerts de groupes tchèques et étrangers. Le public local pourra ainsi voir, par exemple, un groupe français, Sergent Pepera, un mélange de jazz, de mélodies balkaniques et d'art du cirque, qui s'y produira le 1er août dans le cadre de sa tournée tchèque. Valsztenská Lodzie organise néanmoins aussi des événements réguliers.
Parmi les événements les plus importants se classe par exemple une série régulière intitulée « Le ravivement non traditionnel des traditions ». Comme son nom l'indique, il s'agit de faire revivre les traditions tchèques et aussi étrangères qui sont aujourd'hui très commerciales et liées à la consommation ou qui sont au contraire presque oubliées. Pour moi, c'était un thème assez inspirant. J'ai donc décidé de créer cette série d'événements rappelant ces traditions mais qui nous permettent en même temps de les regarder d'un autre point de vue. Pour citer un exemple, nous organisons chaque année Divo Vánoce, le Noël miraculeux. Nous essayons, à travers un spectacle qui est muet et auquel participent de nombreux musiciens de différents genres, des danseurs et des acteurs, de commémorer les histoires de Joseph et Marie et de la naissance de Jésus. Cet événement s'efforce donc de créer une autre atmosphère de Noël que celle à laquelle on est habitué.
Outre Noël, d'autres événements proposant des activités pour les adultes mais aussi pour les enfants sont organisés autour de traditionnels carnavals, la nuit des sorcières et d'autres fêtes populaires. Situé au bord de la région appelée le paradis de Bohême, Český Raj, inscrite en 2005 sur la liste des géoparcs européens de l'UNESCO et admirée pour ses rochers romantiques, Jičín est pour sa part une ville pittoresque, traversée par la rivière Cidlina et dominée par une tour, un château et par l'église Saint-Jacques. Celle-ci a été construite en 1630 d'après le modèle de l'église de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, sur ordre de ce même Albrecht de Wallenstein. La place de la ville, longue de 150 mètres et entourée de jolies maisons bourgeoises, porte également le nom de ce commandant qui a changé à jamais le visage de la ville. Cependant, quand on dit Jičín, on pense avant tout à l'ancien cordonnier et gentil brigand Rumtsaïs, sa femme Manka et leur fils Tsipisek, trois personnages très populaires en Tchéquie. Ces héros de dessins animés, puis de livres pour enfants, apparus pour la première fois dans les années 1960 comme le fruit d'une coopération entre l'écrivain Václav Čtvrtek et l'illustrateur Radek Pilař, vivent différentes aventures dans un bois environnant dénommé Žáholec. Les visiteurs peuvent découvrir ces personnages grâce à la maison de cordonnier Rumtsaïs, un musée qui leur est consacré. Chaque mois de septembre, depuis 1991, un festival très apprécié, notamment des enfants, intitulé Jičín, la ville des contes de fées, se tient également dans cette ville des seigneurs de Wallenstein. Pour une période d'une semaine, Jičín devient ainsi un lieu où tout est possible et où les rêves deviennent la réalité.
Chers amis, c'est la fin de notre programme. Pour plus d'informations sur l'actualité tchèque en langue française, n'hésitez pas à retrouver le site de Radio Prague au www.radio.cz/fr. C'est Danessa Tomanova qui a eu le plaisir de vous présenter cette émission. Merci de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague.